France Inter. Le grand face-à-face. Ali Badou.
Duel Natacha Polony, Gilles Finkelstein, on l'entendait dans le flash de Frédéric Mettezo, 514 interpellations, 272 gardes à vue depuis ce matin. Les chiffres sont considérables, rien à voir avec samedi dernier. C'est le signe évidemment d'une nouvelle stratégie des forces de l'ordre. Après l'inquiétude, la situation semble sous contrôle pour le moment. Vous êtes rassurée, Natacha ?
Disons que nous avons, en tout cas du point de vue du maintien de l'ordre, retrouvé un ministre de l'Intérieur peut-être, et on s'en réjouit. Non, je pense que la question de savoir si l'ordre républicain va être préservé est absolument essentielle. C'est une dimension extrêmement importante. Ça ne résoudra rien sur le long terme. Mais si au moins on peut éviter que tout cela ne dégénère, en effet, c'est bien. J'aimerais simplement que ce maintien de l'ordre se fasse de façon raisonnable, c'est-à-dire sans chauffer à blanc les manifestants. Nous allons observer ce qui se passe de ce point de vue-là.
Gilles Finkelstein.
Oui, vous l'avez dit, on intervient à chaud, au milieu d'une journée dont on ne sait pas encore comment elle va se terminer. Donc s'il y a un mot d'ordre à ce stade, c'est l'extrême prudence. Et quand on est à chaud, quand on est dans la fièvre de l'événement, c'est d'essayer de garder nos capacités de discernement, de pas se laisser emporter par la fièvre de l'événement, de garder le réel en tête et le réel dans sa totalité et dans sa complexité. Il y a une partie du réel qui a surgi avec le mouvement des Gilets jaunes. Il ne doit pas faire oublier l'autre partie. La pauvreté, par exemple, elle se concentre aussi beaucoup dans les villes. L'urgence sociale, elle ne doit pas faire oublier l'urgence écologique. Il n'y a pas de report du changement climatique. Et les difficultés sociales, elles ne doivent pas faire oublier non plus les fondamentaux économiques. Donc, c'est tout ça qu'il faut essayer de penser ensemble.
On va en parler, évidemment, et on va parler du contenu politique de ce mouvement avec François-Xavier Bellamy, mais il faut dire que ce mouvement a suscité, les violences de samedi dernier ont suscité et suscite toujours des inquiétudes sur l'état même de notre démocratie et de l'état de droit. Il a fallu que le Premier ministre dise cette semaine à l'Assemblée que la République était solide, mais écoutez le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ce qu'il disait du mouvement, c'était hier.
Ces trois dernières semaines ont fait naître un monstre qui a échappé à ses géniteurs.
Voilà, c'est un monstre qui a échappé à ses géniteurs et vous avez l'air accablée, Natacha.
Oui, je suis accablée parce que depuis le début de cette crise, on a l'impression que certains autour d'Emmanuel Macron, certains de ses proches, ont si peu pris la dimension de ce qui est en train de se passer qu'ils essayent systématiquement d'agiter des peurs, des colères, des haines, pour essayer de faire passer ce mouvement pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un ramassis de factieux. Or, je pense que la responsabilité aujourd'hui, c'est bien sûr d'observer, de regarder qu'il y a... Oui, mais le terme de monstre est tout de même assez malheureux de la part du ministre de l'Intérieur qui, en plus, n'a quand même pas brillé par sa capacité à gérer l'événement selon ses prérogatives. Donc, il me semble qu'il serait beaucoup plus intéressant de la part du pouvoir d'essayer de comprendre d'où vient cette remise en cause profonde de la part d'une partie du corps politique.
Gilles Finkelstein.
Alors, je partage l'idée que le gouvernement n'a pas pris la dimension, en tout cas il ne l'a pas pris suffisamment tôt en compte, ni les signaux faibles qui étaient envoyés déjà depuis des mois et des mois, ni au début du mouvement. Et comme souvent dans un mouvement social, les concessions que l'on juge pas nécessaires à un moment, elles ne sont plus suffisantes le moment d'après, et on est exactement là-dedans. Après, la violence, il y a un air de déjà-vu, hein, la France est habituée depuis de longues années, et 2005 en a été une illustration à la violence et à la violence politique, ce qui était, je crois, un peu nouveau.
Sous cette forme-là, c'est assez inédit.
Alors, ce qui était nouveau, c'était la diffusion de la violence, au sens où il n'y avait pas une frontière entre les casseurs, l'ultra-droite, l'ultra-gauche d'un côté et les gilets jaunes de l'autre. On le voit dans les séances de comparution immédiate que beaucoup de gilets jaunes eux-mêmes se sont laissés entraîner dans la violence. Et l'autre élément nouveau, c'est une forme d'acceptation de la violence par les Français, un pourcentage qui n'est pas négligeable, 10%, 15% de Français qui non seulement la comprennent mais ne la désapprouvent pas, et surtout, et c'est un élément très important pour savoir si on a un point de bascule du mouvement, le fait qu'en dépit de la violence, eh bien, il y a un soutien qui demeure un soutien massif.
Natacha.
ce soutien massif s'explique peut-être, et même cette porosité en effet de la violence s'explique peut-être par le fait qu'il existe quelque chose qui s'appelle la violence sociale. Et que quand vous avez une population qui a l'impression de n'être plus entendue, de ne plus pouvoir compter, une population qui a l'impression que son vote n'est pas pris en compte depuis des décennies, alors vous créez une situation où s'installe l'idée que finalement seule la violence paye. Et la grande erreur de ce gouvernement, c'est d'avoir à ce point perdu pied, à ce point peu pris la mesure de ce qui se passait, que ce gouvernement a donné l'impression qu'il fallait en effet en arriver à la violence pour être entendu.
La démocratie représentative est de plus en plus discutée par ceux qui ne gagnent pas, pour le dire rapidement.
Non mais elle n'est pas discutée par ceux qui ne gagnent pas. Elle est discutée par des citoyens qui ont l'impression de n'être pas représentés. C'est pas une question de parti politique. Et là, en l'occurrence, quand cette semaine on voit cette séquence délirante où le Premier ministre annonce un moratoire, on en discute à l'Assemblée, les députés parlent, c'est-à-dire la Chambre des députés, quelque chose de comment dire, la représentation nationale, une heure après, de toute façon, l'Élysée balaye tout en disant ben non, il y a plus de moratoire, il y a une annulation. Et vous donnez l'impression aux citoyens que c'est la violence de samedi dernier qui a fini par arracher cela. C'est catastrophique.
Gilles Finkelstein.
Alors, oui, ça c'est le drame, c'est que quand là, non seulement elle intervient trop tard, mais elle intervient, et c'est une concession qui intervient non pas pour les gilets jaunes, mais par rapport aux violences. Et donc ça, c'est un drame démocratique. Oui, violence sociale, évidemment violence sociale d'une toute une partie de la population qui a le sentiment de ne pas être représentée, toute une partie de la population qui a le sentiment de ne pas être reconnue et même de ne pas être connue. Et c'est ça, je pense, un des éléments intéressants de ce mouvement.
Mais l'un des slogans, l'un des mots d'ordre, c'est Macron démission.
Jusqu'à une limite, donc violence sociale, jusqu'à une limite, la violence sociale ne donne pas une légitimité à la violence physique.
Oui, Natacha, mais évidemment. Là, nous allons sans doute en parler avec François-Xavier Bellamy tout à l'heure.
Dans un instant.
Mais il me semble que cette question de la légitimité face à la légalité en termes institutionnels, c'est la question qu'il faut poser aujourd'hui. C'est-à-dire que ces gens qui crient Macron démission ne sont pas des déçus qui n'ont pas gagné une élection et qui du coup n'acceptent pas leur défaite. Ça, c'est le discours qu'a tenu le gouvernement cette semaine. Or, ce n'est pas ça le problème. Le problème est que la distorsion des institutions de la Ve République depuis là aussi plusieurs années, plusieurs décennies, a petit à petit empêché la Constitution de rendre compte de la volonté du peuple. C'est-à-dire que ce qu'on a fait de la Ve République empêche que la volonté populaire s'exprime à travers le vote. Et vous aboutissez à cette remise en cause, en effet, d'un vote. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a certes été élu parfaitement, tout à fait légalement. Et en effet, il est le président de tous les Français. En revanche, une part de la population ne le pense pas comme totalement légitime pour imposer une politique parce que il n'a pas été élu sur ce programme-là, mais dans des circonstances complexes et avec ensuite des législatives qui arrivent juste derrière, avec un scrutin majoritaire qui donne 350 députés.
Enfin, quand on glisse un bulletin dans une urne, on n'écrit pas les raisons pour lesquelles on vote.
Non, mais normalement, il n'y a pas de mandat impératif. En revanche, il y a un minimum de respect des représentés qui doit s'exprimer. Or, ça fait des décennies que les représentants, hélas, ne représentent pas tout à fait.
Gilles Finkelstein.
Alors, on aura, j'en suis persuadé, l'occasion de revenir sur ce débat institutionnel et sur la question démocratique qui est loin d'être derrière nous. On est juste, je crois, à un moment, et pas seulement lié au mouvement des Gilets jaunes, depuis maintenant de nombreuses années, de fragilisation de la démocratie, où on voit une tentation de l'homme fort qui progresse, où on voit que l'idée même de la démocratie comme moins mauvais des systèmes recule en France, année après année. Dans la dernière enquête que nous avons réalisée en juin 2018, vous aviez 36% des Français qui disaient un autre système que la démocratie pourrait s'y substituer, que le même mouvement, à peu près dans la même ampleur, arrive en Europe. Donc voilà, c'est juste...
Oui, mais demandons-nous pourquoi.
Ce
qui est profondément dangereux, en effet, c'est qu'on est en train de détacher les citoyens de la démocratie. Mais quand vous avez, par exemple, en 2005, un référendum, et que les représentants s'asseyent sur ce référendum, 90% des députés qui votent le traité de Lisbonne en allant à l'encontre du vote des citoyens. Comment voulez-vous que les citoyens croient encore à la démocratie ? Or, c'est l'exemple le plus flagrant, mais en fait, c'est à chaque vote que tout cela se passe.
Le problème, le problème, c'est que si on prend ce qu'était la campagne présidentielle très singulière de 2017, Emmanuel Macron n'a sans doute pas, certainement pas, été élu sur son programme, et c'est une illusion que lui et sa majorité entretiennent, comme tous les gouvernements et tous les présidents depuis fort longtemps. Mais est-ce que le reproche que l'on peut lui faire est de ne pas avoir appliqué la politique pour laquelle il a été élu ? Sans doute pas. Il y a beaucoup d'autres reproches qui peuvent lui être faits, mais certainement pas d'être en contradiction. Peut-être qu'il y a un certain nombre d'équilibres qui ont été rompus, je le crois. Mais en revanche, dire que c'est exactement le contraire de ce pourquoi il avait été élu.
Non, c'est pas ça. Pas. C'est que quand on n'a pas été élu, justement, sur un programme, mais dans des circonstances particulières, on essaye de ressouder la nation au lieu d'affirmer qu'on va appliquer ce programme en se moquant totalement des alertes, en détruisant les corps intermédiaires et en estimant qu'on a la légitimité par le vote uniquement. Ça, c'est dangereux.
France Inter, midi 17 minutes, le grand face-à-face continue avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein.